Le journal Adiel Chipoukou.
Bonsoir. À la une ce soir, l'appel du secrétaire général du gouvernement de transition. Toumba Louaba demande à chaque composante de remplacer Iket Nunk, les députés élus ayant accepté de démissionner de leur poste politique. La nomination au rang de colonel des FRDC de Peter Karim et Mathieu Ngonzolo, deux chefs miliciens de l'Ituri, devient sujet à controverse à Bounia. Les concernés eux-mêmes saluent cette décision, tandis que les organisations de droits de l'homme estiment que c'est une décision irresponsable de la part du gouvernement. Le point dans ce journal. Journée mondiale de la santé mentale ce mardi 10 octobre 2006. À Kinshasa, la prise en charge de ces malades pose problème. Témoignage des membres de famille des malades mentales dans cette édition. Les députés élus à l'Assemblée nationale qui ont accepté de démissionner de leur poste politique doivent ipso facto être remplacés. Déclaration ce mardi du secrétaire général du gouvernement. Toumba Louaba estime que la continuité de l'État doit être assurée jusqu'à l'installation du prochain gouvernement issu de la majorité parlementaire. Pour lui, l'affaire des composantes ne pose pas de problème car le président de la République a déjà instruit aux différentes composantes de faire leur proposition de remplacement. Toumba Louaba, secrétaire général du gouvernement, joint au téléphone par MNCA.
Le remplacement, c'est simple. Le chef de l'État a déjà écrit aux responsables de composantes et entités qui ont la possibilité soit de proposer de nouveaux membres qui vont gérer jusqu'à l'installation du nouveau gouvernement. L'autre possibilité serait que tel membre puisse être désigné pour assurer l'intérim de notre membre du gouvernement élu. Le problème se pose avec acuité pour certains ministères où nous avons le ministre et le vice-ministre qui sont tous les deux élus. Maintenant, on a demandé aux composantes assez rapidement pour permettre au gouvernement de continuer à fonctionner jusqu'à l'installation du nouveau gouvernement, de faire des propositions. Et je peux vous dire qu'il y a déjà des propositions de certaines entités aux composantes, d'autres ont promis de le faire dans les 48 heures.
Cette demande du secrétaire général du gouvernement est déjà en application au ministère du portefeuille. Célestin Vounabandi, ministre du portefeuille, affirme qu'ils se sont référés aux composantes pour la désignation de ceux qui vont remplacer les mandataires ayant démissionné. Il est joint au téléphone une fois de plus par MNCA.
Dès lors que nous sommes encore régis par les dispositions de la constitution de la transition, aujourd'hui, lorsqu'il faudra les remplacer, il faudra certainement se référer aux composantes et entités qui les avaient désignées à l'époque. C'est ce que nous avons fait. Nous avons donc contacté les différents chefs de composantes et entités qui sont concernés, qui nous ont déjà fait des propositions que nous avons transmises à la présidence de la République. S'il faut désigner des intérimaires, ça, je peux le faire. Et là, je n'ai pas de difficultés. Généralement, l'intérim est exercé par des personnes qui sont recrutés à l'intérieur de l'entreprise. Nous en avons nombreux qui assument l'intérim et qui n'ont absolument rien à faire avec les composantes ou entités.
Préparatif des scrutins du 29 octobre prochain, la mission d'observation électorale de l'Union européenne vient d'annoncer l'augmentation du nombre de ses observateurs pour le deuxième tour des présidentielles. Cette mission prévoit donc de déployer 200 autres observateurs, en plus des 100 déjà présents au premier tour des élections. Éric Despalières, chef de mission adjoint, l'a annoncé ce mardi au cours de la conférence hebdomadaire de la mission d'observation européenne. 100 de ces observateurs seront déployés dans les bureaux de liaison à partir du 13 octobre et les 200 autres arrivent quelques jours avant la tenue effective du scrutin, indique la même source. Il est 18h04 à Kinshasa, 19h04 à Bounia, c'est dans l'Ituri. L'annonce de la nomination au grade des colonels dans les rangs des FRDC de Peter Karim et de Mathieu Ngonjolo, respectivement leader du Front des nationalistes et intégrationnistes FNI et du Mouvement des révolutionnaires congolais MRC, devient sujet à controverse à Bounia. Les concernés eux-mêmes saluent la décision, mais déplorent le retard avec lequel cette mesure intervient. La société civile de l'Ituri, de son côté, estime que cette mesure ne vaut pas plutôt grand-chose sans la décision d'Amnesty. Jean-Paul Bassil a fait le point.
Contactés au téléphone lundi soir, tous les deux nominés ont déclaré n'avoir encore été au courant de cette décision, pourtant signée depuis le 2 octobre dernier. Mais déjà quelques instants après l'avoir apprise, la réaction de Mathieu Ngonjolo était positive. Pour lui, cela pourra non seulement consacrer la pacification en Ituri, mais aussi faciliter définitivement la réconciliation interethnique dans cette partie de la province orientale. Quant à Peter Karim, il souhaite que la décision relative à l'amnistie intervienne le plus rapidement possible. Entre-temps, la société civile salue mais juge la décision insuffisante sans l'amnistie. Jean Bosco Lalo, président de la société civile en Ituri.
Évidemment, le fait de donner des grades, ça peut être une voie de solution, mais elle n'est pas une solution en elle-même. D'autant plus qu'il y a d'autres amis qui ont été aussi nommés ici, mais très vite après ça, on les a mis sous les verrous. Nous souhaiterions que ces gestes soient vraiment un geste sincère. Mais à défaut de l'amnistie, c'est grave, je ne sais pas à quoi cela équivaut.
Pour les organisations de défense des droits de l'homme basées à Ituri, cette décision cautionne l'impunité. Godem Piana, secrétaire exécutif des Justice Plus.
C'est avec beaucoup de déception que j'accueille cette décision que nous trouvons à beaucoup d'égards assez simpliste, assez irresponsable, parce que nous trouvons que c'est une façon pour le gouvernement de consacrer l'impunité.
Rappelons que cette décision intervient 3 mois après la signature des accords entre les gouvernements et ces deux groupes armés. Bounia, Jean-Paul Bassi, la radio Okapi.
Province orientale toujours, c'est pour parler social cette fois-ci. La division des affaires sociales procède depuis ce matin à la paie de la solde des militaires invalides, veuves et orphelins à Kisangani. Plus de 1000 personnes sont concernées par cette opération. Cette paie, autrefois assurée par la direction des œuvres sociales militaires des FRDC, est effectuée cette fois par le ministère des Affaires sociales. Suivez les explications de Laurent Otété, ministre des Affaires sociales. Il est au micro de Anselme Massois.
En fait, c'est sur décision du gouvernement et du Conseil supérieur de la Défense que cette paie a été détachée du ministère de la Défense. C'est pour la seule et bonne raison que, dans la recherche de connaître les effectifs, à la fois des inactifs et des militaires actifs, pour bien déterminer le nombre, afin d'améliorer les conditions de paie et surtout les conditions de vie de toutes ces personnes qui sont prises en charge par l'État. À partir des affaires sociales, qu'est-ce que nous voulons? Nous remettre des fichiers des véritables gérés en droit. Donc, ceux qui ont droit, qu'ils sachent qu'ils seront payés. Et nous allons veiller à ce qu'ils soient payés régulièrement à temps, afin d'améliorer leurs conditions. Naturellement, s'il y a des irréguliers, c'est qu'ils seront incarcérés dans l'île.
Journée mondiale de santé mentale ce mardi 10 octobre 2006. À Kinshasa, la situation des malades mentaux est précaire, surtout pour les familles démunies qui n'arrivent pas à prendre en charge leurs membres malades. Le centre d'internement plutôt des malades de Kinkolé ne s'est pas relevé des pillages des années 1991. Notre confrère Jean-Blaise Ntamboué a fait le déplacement du centre neuropsychopathologique Téléma où une dame évoque les difficultés que rencontre sa famille pour répondre aux besoins des soins d'un de ses parents. On l'écoute.
Ça fait déjà 10 ans que mon père il est malade mental. Pour le soin de mon père, on fait tout. Comme nous, les enfants, nous sommes passés en place, moi, je suis déplacé là que je vis. Je suis venu ici pour accorder ces soins. Malgré au pays, en tout cas, il n'y a pas personne qui peut l'occuper de mon père. En tout cas, c'est tellement difficile aussi parce qu'au milieu de la famille, il n'y a pas quelqu'un qui travaille à la maison. Mais nous débotons. Moi-même, je suis déplacé même en Angola pour venir ici pour prendre soin de mon père. C'est ça. Mais ici, même pour la famille, pour l'amener, pour le prendre les traitements, en tout cas, c'est difficile pour eux.
Une autre commémoration ce mardi 10 octobre, c'est la Journée mondiale contre la peine de mort. Le barreau de Lubumbashi et la coalition provinciale des organisations des droits de l'homme qui militent en faveur de l'abolition de la peine capitale ont organisé une journée de réflexion. Le but est de dégager des arguments à mettre à la disposition du nouveau Parlement pour aboutir à la suppression totale de la peine de mort en RDC. Je vous propose d'écouter le plaidoyer de Dieudonné Dine Massoudi Kingombe, directeur exécutif du Centre de droits de l'homme et du droit humanitaire au Katanga, CDH en sigle. Il est au micro de Paula Munanga.
Jusqu'à ce jour, notre code pénal prévoit la peine capitale. Et donc, notre pays n'a pas encore supprimé cette peine dans notre législation pénale. Mais cette position est justement en contradiction avec les instruments juridiques internationaux que notre pays a déjà ratifiés. Je citerai ici la Déclaration universelle des droits de l'homme qui interdit justement la peine capitale. Il y a également le pacte international relatif aux droits civils et politiques que notre pays a déjà ratifié qui interdit également la peine capitale. Mais notre souhait en tant que membre de la coalition mondiale des ONG qui militent en faveur de l'abolition de la peine capitale, c'est de faire en sorte que nous puissions faire un plaidoyer sur l'État congolais sur le Parlement de notre pays pour que cette peine capitale soit supprimée dans notre législation pénale.
Direction Maniema, les portes de l'université de Kindu à nouveau ouvertes. Elles avaient été scellées par les comités des étudiants de cette institution d'enseignement supérieur depuis samedi dernier. Ces derniers accusent leur secrétaire général académique d'avoir choisi unilatéralement les étudiants devant représenter l'institut au forum des étudiants à Kinshasa. Mais leur acte n'a pas été apprécié par les autres étudiants qui ont rouvert les portes scellées. Rigobert Yumandwani nous en parle.
Après 3 jours de fermeture, les portes de l'université de Kindu se sont enfin rouvertes ce matin. En effet, depuis samedi, le comité des brigadiers, soutenu par le comité des étudiants, avait fermé les portes des bureaux administratifs de l'université de Kindu. Ce comité reproche au secrétaire général académique de l'UNIKI d'avoir choisi les étudiants à envoyer à un symposium à Kinshasa seul et donc sans consultation des organes étudiantins. Les autres étudiants, mécontents de cette position des comités, ont manifesté leur désaccord en menaçant de casser la porte. Heureusement, les portes se sont ouvertes ce matin. Interrogé, le secrétaire général académique, le professeur Misenga, dit qu'il ne comprend pas à ce qui est arrivé et qu'il est sûr qu'il y a une main obscure derrière ces étudiants. Le secrétaire général académique précise encore que s'il ne s'est pas décidé de lui-même à casser les cadenas, c'est parce qu'il attend le retour du recteur qui est en mission à Kinshasa. De Kindu, Rigobert Yumandwani Walumba, Radio Okapi.
Deux titres en page internationale. Au moins 6 personnes ont été tuées et 29 autres blessées par l'explosion d'une bombe ce mardi aux Philippines. C'était lors d'une fête organisée en l'honneur du 52e anniversaire de la fondation d'une ville située dans le sud de ce pays. La nouvelle a été donnée par la police locale. Et puis le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, espère éloigner de la frontière soudanaise 40 000 réfugiés du Darfour vivant dans des camps au Tchad. La détérioration en cours de la situation sécuritaire au Darfour et l'insécurité croissante dans l'est du Tchad soulignent la nécessité urgente de déplacer les réfugiés soudanais, a expliqué à la presse à Genève Jennifer Pagonis, porte-parole du HCR. L'agence onusienne a obtenu la permission du gouvernement tchadien de trouver de nouveaux camps pour que les réfugiés des camps d'Our Kassoni, à 5 km de la frontière, et d'Amnabak, à 18 km, puissent être mis en sécurité à tel pour suivi. Le rappel de titre avant de boucler complètement cette édition, nous avons eu à la une l'appel du secrétaire général du gouvernement de transition. Toumba Luaba a demandé à chaque composante de remplacer ipso facto les députés élus ayant accepté de démissionner de leur poste politique. Et puis la nomination au rang de colonel des FRDC de Peter Karim et Mathieu Ngunzolo, deux chefs miliciens de l'Ituri, devient sujet à controverse à Bunia. Les concernés eux-mêmes saluent cette décision, tandis que les organisations de droits de l'homme estiment que c'est une décision irresponsable de la part du gouvernement. Journée mondiale de la santé mentale ce mardi 10 octobre 2006. À Kinshasa, la prise en charge de ces malades pose problème. Nous avons suivi le témoignage d'un membre de la famille d'un malade mental dans cette édition. C'est donc par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi et notez que vous pouvez le retrouver sur notre site internet www.radiookapi.net. Bonne suite de programme.